Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr RDIWA au 101.7 ou 107.5 FM. Aujourd'hui, dans le studio de Luc Andiwa, je reçois Julie Charnay. Bonjour Julie.
Bonjour.
Tu es venue nous parler du commerce que tu as ouvert récemment à Recoubeau-Jansac, il y a un mois. Ou plutôt d'un nid, comme tu le décris, il s'agit de la Maison Oiseau. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison ?
Alors la Maison Oiseau, c'est un refuge, un petit nid effectivement, qu'on a voulu bien accueillant, où on propose à la fois des objets anciens de brocante, chinés et revalorisés, et des objets d'artisanes. Il y a un petit peu d'artisans, mais c'est surtout des femmes, des artisanes en céramique, en bijouterie, en crochet, en herboristerie aussi. Donc des pièces uniques, faites main, durables. Mais c'est aussi une petite buvette, un petit tea room. Donc voilà, c'est un refuge où on peut venir choper, mais aussi se poser, boire un petit thé glacé et prendre son temps.
Le « on », c'est toi et quelqu'un d'autre ou c'est une formule
Je parle de moi au pluriel. Non, c'est... en fait, on est deux derrière le projet. Enfin, Maison Oiseau, c'est mon projet à moi, mais la boutique buvette prend place dans le cadre d'un projet plus vaste et plus hybride aussi, où on va bientôt ouvrir également des ateliers d'art plastique, on va pouvoir accueillir des expos et on l'espère des résidences d'artistes en art plastique. Voilà, l'idée étant que ce refuge s'agrandisse encore et voilà, fasse place à plein d'activités différentes. Voilà, un lieu hybride, un lieu mixte. Certains parlent d'un tiers-lieu créatif. Je ne suis pas sûre du terme tiers-lieu. On en reparlera peut-être.
On pourra peut-être en reparler sur la suite de ce que vous proposez, ouais. Mais déjà pour...
Mais donc on est en binôme, ouais. C'était d'accord. Ça ta question.
Initiale, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Mais pour parler du coup du concret, du présent, là tu parles d'une multiplicité d'objets. Où est-ce que tu les trouves, ces objets, que ce soit des objets d'artisanat ou des objets divers que tu évoquais?
Ça c'est la partie fun de l'activité, du métier. Eh bien, pour les objets chinés, j'écume les brocantes, les vides greniers, les Emmaüs, depuis toujours. C'est un peu ma passion. En venant du nord de la France, de Lille, là c'est la braderie de Lille, le week-end dernier. Donc voilà, j'étais biberonnée à ça dès le plus jeune âge, à la recherche de la perle rare et de l'objet précieux qui a une histoire. Et puis l'autre partie, la partie des artisanes et des pièces contemporaines, c'est aussi une partie assez géniale. Enfin, moi, je suis absolument fan du travail de ces artisanes, de ces artistes. Et donc, je vais à la rencontre, en fait. Hein. Je fais un repérage sur Internet, mais aussi sur les différents marchés de créateurs. Puis voilà, c'est le bouche à oreille aussi. Et une fois que j'ai repéré des objets et des façons de faire qui me plaisent, je prends contact, je vais à la rencontre. Et parce que la rencontre est primordiale aussi dans la démarche de Maison Oiseau. Voilà, et donc je vais visiter les ateliers, parler du travail et des démarches des différentes artistes et faire avec elles une sélection spécifique pour les exposer à Maison Oiseau et les proposer dans le cadre de cette boutique.
Sur le site internet de Maison Oiseau, tu parles notamment justement de cette envie de raconter des histoires et de rencontrer en tout cas les artistes, mais également d'avoir un récit autour de l'objet. Est-ce que c'est ça qui va guider ton choix des objets que tu rencontres ?
Sur les objets, c'est vraiment le coup de cœur. C'est vraiment ce qui va parler... à ma sensibilité, c'est la dimension poétique d'une création, c'est son rapport aussi à la nature et à l'organique. C'est vraiment quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Oui, c'est cette poésie-là qui m'intéresse. Après, pour ce qui est de raconter des histoires, moi j'aime surtout faire des passerelles en fait, entre les créateurs et le public. Et donc c'est cette histoire-là que j'aime raconter. C'est l'histoire de ces artistes, de leur démarche, que j'aime restituer aussi au, j'allais dire au public, mais au public, aux clients, aux passants. C'est cette transmission-là, en fait, qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, chaque objet a une histoire. Et c'est pour ça aussi que je les mélange d'autant plus facilement, ces objets contemporains créés d'une certaine façon par certaines personnes dans certaines conditions, avec des objets plus anciens glanés dans les brocantes, qui, eux, sont effectivement chargés d'une beaucoup plus longue histoire et ont été, pour la plupart du temps, transmis de génération en génération pour finir sur les étals à la fin. Et, enfin, voilà, moi, je les prends en main avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'amour aussi. Et ça m'intéresse, ça m'intéresse vraiment très fort de continuer cette transmission et ce grand cycle de transmission.
Est-ce que tu aurais un exemple d'histoire ou d'objet en particulier? Parce que j'ai l'impression qu'on peut faire un grand pont entre l'artisanat local du Diwa et un objet chiné. Et c'est vrai que sur ton site internet, on a quelques exemples, des photos, mais presque qui laissent un peu sur notre faim. On aimerait voir plus et savoir davantage. Qu'est-ce que tu pourrais nous décrire comme objet pour donner envie aux personnes de franchir la porte de cette maison oiseau?
En fait, des histoires, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Ça va vraiment de ce sucrier. Moi, je pense souvent à ce sucrier spécial pour les gaufres. Donc c'est mes racines franco-belges qui parlent encore, mais que ma grand-mère avait, et évidemment elle faisait les meilleures gaufres du monde.
Comme toutes les grand-mères,
voilà.
Surtout les grand-mères belges.
C'est ça, surtout la mienne. Et donc elle avait ce gaufrier en verre avec le couvercle émaillé, troué émaillé. Et cet objet, moi, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment juste magnifique. C'était presque une sculpture, une création avec ses multifacettes de verre. Et donc, voilà, il y a cet objet-là à trôner sur la table pendant des années, des décennies. Aussi sur la même table de goûter que ma propre mère, avant que moi, j'arrive là. Et donc, il y a vraiment cette idée de faire revivre un objet, enfin, de continuer à le faire vivre, en fait, plutôt que de le faire revivre. Continuer à le faire vivre et lui inventer des nouvelles histoires, et le poser sur d'autres tables de goûter et rendre aussi fous les autres, des nouvelles générations d'enfants pour sucrer leurs gaufres et leurs crêpes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup savoir ça et j'aime beaucoup continuer cette histoire-là. Ça, c'est pour les objets plus anciens. Après, pour les objets contemporains, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la démarche des artisanes. Donc, effectivement, ouais, je pense... toutes celles qui sont représentées dans la boutique, je suis complètement fan de leur travail. C'est pas difficile, moi, ma ligne éditoriale, c'est ce que je dis toujours, c'est les pièces que j'aimerais avoir chez moi. Donc, c'est pas compliqué, c'est tout ce que j'aime, tout simplement. Et après, je les aime pour plusieurs raisons. Et effectivement, les rencontres que je fais avec ces artisanes donnent encore plus, un supplément d'âme aux objets qu'elles font. Et la première à qui je pense, mais je les aime toutes, mais c'est Camille Framboré, qui a son atelier à l'usine à Poët-Laval. Elle travaille la porcelaine et elle peint l'aquarelle sur de la porcelaine. Et ça donne des objets. Elle fait des objets utilitaires, donc on a des tasses, on a des bols, on a des plats un peu plus grands. Encore que moi, je les trouve tellement magnifiques que j'oserais presque pas mettre mon thé dedans. Mais elle décline aussi tout son savoir-faire avec des objets beaucoup plus oniriques que ça. Et elle transgresse l'utilitaire pour partir sur des espèces de petites dinettes où on a, par exemple, une mini théière en forme d'éléphant avec la trompe, un petit oiseau perché sur son dos. Tout est extrêmement minutieux. On est à la croisée des chemins entre le conte, Alice au Pays des Merveilles, et puis ce talent, quoi, ce savoir-faire. Elle nous embarque en fait complètement dans son monde à elle. Elle décline aussi ces illustrations en affiche plus classiquement. Mais donc on a vraiment, on plonge vraiment dans un univers à part entière avec cette artisane-là. C'est cette sensibilité-là qui me touche beaucoup.
Et j'ai l'impression que dans ce que tu décris des objets que tu choisis, il y a cette rencontre en tout cas entre l'utilitaire, l'utile, mais assez simple finalement. Tu décris des objets du quotidien et un univers poétique ou onirique, en tout cas créatif. Qu'est-ce qui t'a amené à ce que ces valeurs-là soit importante pour toi? Quelle est, en fait, finalement, qu'est-ce qui est à l'initiative, dans quelle histoire, encore une fois, s'ancre cette recherche à la fois de l'alliance entre le simple et le beau?
Ça, c'est une bonne baseline. L'alliance entre le simple et le beau, merci.
Je t'en prie, à ton service.
Ouais, ça va.
On fait ça aussi à la radio.
Ça me va très bien. Ça me convient bien. Il y a deux choses. D'abord, quand même, cette idée dans l'utilitaire et la simplicité d'acquérir des objets qui soient durables. Et vraiment, dans une dimension évidemment écologique, d'avoir un bel objet qui nous serve au quotidien, qu'on chérisse, et juste d'arrêter cette accumulation indécente, et de vraiment se recentrer sur du beau. Donc, du beau. De l'utile. Et tant qu'à faire, si c'est utile, autant que ça soit beau. En tout cas, autant que ça soit éthique et raisonné. C'est-à-dire que si j'ai qu'une seule tasse, je ne vais pas l'acheter à Ikea. Je vais vraiment l'acheter à une personne qui a mis sa main dans la terre, qui a passé des années à développer un savoir-faire et qui va mettre aussi tout son cœur dans ce qu'elle fait. Acquérir une pièce comme ça, et c'est aussi prendre soin des choses. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Encore une fois, pour stopper un peu cette frénésie du gaspillage et de la consommation, si on a un seul objet et un bel objet, un objet durable, un objet du coup qui fait sens, quoi, et qui a son coût de ce fait, forcément on en prend soin. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important aussi, de prendre soin de ce qui nous entoure et en tout cas prendre conscience de leur valeur, vraiment de la valeur du coût de production réel, et d'être entouré de ces choses-là.
Ces valeurs-là, donc c'est celles que tu mets en œuvre finalement au sein de la Maison Oiseau. Est-ce que c'est des valeurs qui te portent depuis longtemps, ou alors c'est des valeurs que tu as souhaité récemment mettre en œuvre, et peut-être tout particulièrement dans le Diwa?
Jolie perche, effectivement. oui, effectivement. Ça vient aussi de mon histoire personnelle. J'ai grandi à la campagne. Encore une fois, c'est vrai que la figure de ma grand-mère est très présente dans mon histoire, avec une vie simple, avec un jardin qu'on entretient, avec une nature qui nourrit, avec ses cultures de petits fruits qu'on transforme, avec les confitures, avec les saisons, avec la cueillette des plantes, avec la transformation. Il y a tout ce lien-là. Ce lien-là qui est primordial et qui a toujours été une ligne directrice pour moi dans ma vie. Après, en grandissant, évidemment, les lumières de la ville et des activités professionnelles qui m'ont amené à me détacher de cette façon de vivre-là, pas forcément des valeurs, mais en tout cas de cette façon de vivre plus consciente et plus en lien avec la terre, et puis très classiquement, c'est la maternité. Quand l'enfant arrive, un beau jour, ça remet les choses en place. Et on a vraiment envie, en ce qui me concerne, j'avais vraiment envie, je l'imaginais pas, courir sur les trottoirs des villes, mais bien plus sur les collines herbeuses, comme moi à son âge, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a eu un déclic et où on s'est dit, il y a 4 ans avec mon compagnon, maintenant on met les voiles et on se recentre sur les vraies choses essentielles, quoi. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés dans le Diwa.
Bienvenue, même si tardivement. Ouais. Et est-ce que C'est-à-dire qu'en voyant, en voyant ta pratique, je me demande aussi si elle s'inscrit dans une particularité locale qui serait celle d'une région particulièrement active d'un point de vue de la production artisanale, mais aussi évidemment d'un point de vue de certaines valeurs, comme celle de l'écologie, de la récupération, etc. Et je me demande si finalement, est-ce que tu aurais pu avoir cette activité ailleurs ou est-ce que... C'est-à-dire, est-ce que c'est la rencontre avec le territoire qui a provoqué cette activité ou est-ce que finalement c'était bien trouvé et ça s'est bien inscrit dans le territoire particulièrement approprié pour cette pratique, on va dire.
Je pense que j'avais en moi l'envie d'ouvrir un lieu comme celui-là depuis longtemps. En revanche, ses particularités et son identité est vraiment propre au territoire dans lequel il s'ouvre. Vraiment. C'est-à-dire qu'on est arrivé il y a 3 ou 4 ans sur le territoire et on n'a pas du tout voulu immédiatement ouvrir un lieu et faire, plaquer nos envies et nos expériences et nos projets de façon hors sol, quoi, en mettant en place ce qu'on avait en tête depuis longtemps, sans considération justement du territoire dans lequel on était. Et on a pris notre temps pour prendre le pouls. Observer, rencontrer aussi les gens et nos voisins et commencer à échanger là-dessus. Et c'est comme ça qu'en fait le projet s'est affiné. Et effectivement, je pense qu'il a des particularités qu'il n'aurait pas eu. On s'est vraiment adapté aussi à ça et c'est une très bonne chose. C'est pas de l'opportunisme, c'est vraiment de... Enfin, ça fait vraiment partie de notre ADN aussi, de vouloir être en communion avec notre environnement et de servir à quelque chose aussi. Enfin, il y a vraiment ce truc-là d'arriver et de ne pas vouloir ouvrir quelque chose qui n'a pas de sens, mais parce qu'on avait envie de ça, puis c'est comme ça. Mais de vraiment se dire, de quoi les gens ont besoin, enfin, qu'est-ce qui répondrait à leurs envies, comment est-ce qu'on pourrait utiliser... notre expérience et notre savoir-faire pour améliorer le territoire, quoi, le quotidien, notre environnement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Et voilà, le fait est qu'avec nos deux expériences, à Laurent et à moi, on s'est dit que c'était ce concept-là qui était peut-être le plus sensé.
Des expériences, peut-être parlons-en justement, parce que tu viens du monde du cinéma. Tu as travaillé 20 ans comme programmatrice de cinéma, dans des festivals ou dans des cinémas, donc programmatrice de films. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, que cette envie de raconter des histoires vient aussi de là, dans le fait de vouloir valoriser des artisans, des artisanes. Peut-être qu'on peut carrément supprimer le masculin, finalement, de cette interview.
Pauvre Sylvain, si tu nous entends.
Alors, en tout cas, pour parler des artisanes. Et oui, j'ai l'impression que ça vient de là. Néanmoins, déjà, peut-être que tu peux me le confirmer. Quoi. Est-ce
tout
que,
à fait.
J'imagine ouais. que ça, voilà, ça s'inscrit dans ce parcours-là de vie professionnelle.
Ouais, tout à fait. En fait, je m'en suis rendu compte vraiment tardivement dans l'écriture du projet de Maison Oiseau, que j'étais complètement dans la continuité. J'avais l'impression d'être en reconversion totale, aux antipodes de ce que j'avais fait auparavant. Et finalement, pas du tout. Finalement, je me retrouve dans ce que je préférais dans mon métier d'avant, c'est-à-dire vraiment aller à la rencontre des artistes, des créateurs. Et d'avoir ce choc émotionnel devant une œuvre. Alors, on a juste transformé un court-métrage en une céramique, mais il y a quand même de ça. Il y a quand même de ça dans un choc des sens face à une œuvre. Aller à la rencontre d'un artiste pour voir mieux comprendre ce qu'il a voulu exprimer. Et puis tisser des passerelles entre les artistes, les créateurs et le public. Et justement, raconter ces histoires, les mettre en lumière, quoi. Mmh. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré faire.
Et néanmoins, comment est-ce que cette pratique, elle s'accommode du geste marchand ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que la démarche n'est quand même pas la même dans un festival, pour beaucoup gratuit, ou en tout cas à moindre prix, où finalement on est... Voilà, on est là pour s'immerger dans de l'art et dans une logique commerciale où, à la fin, ce qui compte, c'est quand même de vendre des objets.
Ça, c'est dur.
J'imagine. Oui, tout à l'heure, tu parlais de la meilleure partie de ton travail qui était celle d'aller chiner les objets. Donc, j'ai cru comprendre que c'était pas, que l'autre partie n'était pas ta préférée.
Ça, c'est la moins gaie. Mais encore qu'il y a ce côté de jouer à la marchande qui est quand même rigolo. Surtout pour ma fille, quand elle veut prendre la place derrière le comptoir.
C'est une vraie entreprise familiale. Alors.
Ouais, c'est ça, je te le ferai pas dire. Ce qui me sauve dans ce geste commercial, ce geste d'échange monétaire, c'est d'avoir l'impression, enfin, c'est même pas qu'une impression, c'est quand même tout de même vrai, de pas le faire pour moi, mais de le faire justement pour les artistes qui sont, j'allais dire, dans l'ombre, en tout cas moins visibles, que je rends un peu plus visibles, puisqu'il y a vraiment toute une grosse part, évidemment, qui leur revient. Donc j'ai vraiment l'impression de le faire pour elles aussi. Et que c'est vraiment une idée de l'union fait la force, comme ça, évidemment de sororité, mais de tous se dire, allez, on y va. Et dans ce cadre-là, forcément, comme je disais tout à l'heure, j'en suis persuadée, ce travail a un prix, et a une valeur, une vraie valeur. Et pour ça, je n'ai pas honte d'afficher les tarifs de ce que ça vaut réellement, quoi. Et les retours des clients sont vraiment positifs là-dessus aussi, puisqu'il y a une vraie conscience là-dessus. Je l'entends. Enfin, après, c'est ce qui permet, le fait d'avoir aussi des objets de brocante beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessibles, ça donne aussi un équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas une boutique qui est hors de prix. On peut se faire plaisir pour certaines choses, on peut soutenir le travail d'artistes contemporaines, mais on peut aussi juste se faire plaisir avec une petite tasse chinée à 3 euros et on est tout content d'avoir de toute façon cette pièce qui est très rare et dont on a peut-être la dernière dans sa cuisine pour boire son café du matin. Donc oui, ça va. C'est pas facile, mais je me débrouille.
Pour le moment, en tout cas, ça va. On en reparlera quand on refera le point sur tes activités dans quelques années.
Multiplier les maisons oiseaux et rendu l'affaire dans une démarche capitaliste.
Quand ce sera une franchise qui se vendra dans le monde entier.
Exactement.
Mais peut-être, du coup, parlons-en peut-être. C'est quoi la suite? Tu évoquais en tout début d'interview la possibilité d'extension de ce projet. Est-ce que tu peux par ailleurs nous expliquer un peu plus, que tu parlais de plusieurs personnes et de plusieurs projets, dans quel projet collectif finalement s'inscrit la Maison Oiseau?
Oui, tout à fait. Alors le lieu est atypique déjà. C'est Maison Oiseau se situe à l'intérieur de l'ancien gîte de Roquebelle, à Recoubeau-Jansac, qui est ce grand bâtiment qui accueillait, il y a encore peu de temps, des colonies de vacances et des groupes de randonneurs tout au long de l'année. On a racheté ce lieu à 7 familles, et donc on s'est partagé en copropriété ce grand paquebot. Et donc, on aménage au premier étage pour chacun nos appartements d'habitation. Et au rez-de-chaussée se trouvent des grands espaces d'ateliers qui sont dédiés à nos activités professionnelles, à chacun de cette famille. Donc, nous, on a l'espace, ceux qui l'ont fréquenté, parce que je sais que c'est aussi un gîte qui accueillait beaucoup de festivals, de conférences dans le passé, de stages divers. Donc nous, on a l'ancienne salle de danse. Donc on a un espace, un grand espace de 250 mètres carrés, tout parqueté avec des grands miroirs. Voilà. Il y a eu des mariages aussi qui ont été célébrés à cet endroit-là, dans le temps. Donc nous, notre lieu à nous, donc outre la Maison Oiseau, boutique buvette, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va développer un petit peu... la petite restauration, on nous réclame des brunchs le dimanche, donc ça sera fait. Dans mon avis, en courant octobre, ça sera lancé, les brunchs du dimanche.
Qui se font en partenariat avec qui, quoi?
Avec, et là, pour l'instant, c'est pas encore sûr, d'accord. Donc je ne peux pas vous dire.
Pas d'avant-première alors dans cette interview.
Mais oui, mais dans la même mesure que souvent on me dit, alors qu'est-ce que vous faites dans cette boutique, en me demandant quelles céramiques sont les miennes. Moi, je ne fais pas de céramique, je ne suis pas créatrice et je ne suis pas cuisinière non plus. Par contre, j'aime beaucoup... encore une fois, aller à la rencontre de celles qui savent faire et mettre en valeur leur travail. Et quand on a la chance d'avoir un lieu comme celui-là, ça, ça donne aussi une visibilité vraiment particulière. Enfin, voilà, c'est une chance aussi de pouvoir travailler avec, avec tous ces talents-là. Donc, un petit peu de restauration, les goûters du week-end aussi qui vont... ça, c'est déjà mis en place. Et c'est avec les matisseries d'Adèle, donc qui fait des gâteaux exceptionnels. Donc, ça, on a déjà lancé le week-end dernier. Ça sera maintenant tous les week-ends, proposer des formules de goûter.
C'est-à-dire tout le samedi et le dimanche,
le samedi,
à 4h.
Oui, de 14h à 19h. On peut venir... choisir sa part de gâteau avec un petit thé glacé, un café frappé, un kombucha, qu'importe, plein de bonnes choses. Et oui, et du coup, au fil des semaines, jusqu'à cet hiver, on va proposer de plus en plus aussi d'activités plastiques, puisqu'on va mettre en place des ateliers d'art plastique, on va essayer de mettre en place des résidences aussi d'artistes en art plastique. Mettre en place des expos, proposer quelques projections de temps en temps, mercredi après-midi, pour les enfants, et faire finalement de ce lieu grand un espace où le public puisse venir circuler, se poser en famille, entre copains, faire un tour à la boutique, se poser, prendre le goûter, regarder, voilà, regarder une expo, passer un bon moment, en fait, et voilà, et s'approprier le lieu, puisque... C'est tout notre souhait, c'est que les portes soient grandes ouvertes de cette maison oiseau.
Tu parlais de l'importance que ça avait eu pour vous, donc toi et ton compagnon, de vous intégrer dans la région et le territoire avant de proposer quelque chose. Comment très concrètement vous faites pour ne pas faire doublon avec des activités qui existent déjà ou être en complémentarité avec des lieux qui existent déjà, comme le Tas de Fumier justement à Rokubo par exemple, qui propose aussi des activités culturelles?
Ouais, on a rencontré le Tas de Fumier et en fait ils sont vraiment super contents qu'un autre lieu aussi proche aussi... ouvre ses portes puisque ils sont tellement sollicités que justement il y a trop de demandes et pas assez d'offres, et si on peut être une partie de l'offre, la salle en dehors des heures d'ouverture de Maison Oiseau sera disponible à la location, donc pour toutes les activités associatives, sportives et autres, sera disponible aussi pour accueillir ces activités-là.
Pour avoir des informations pratiques, à partir de quand vous
savez
déjà ?
1er octobre. À partir du 1er octobre, on sera disponible pour la location de salle.
Et en termes de tarifs, je ne me souviens plus si vous l'avez indiqué sur votre site internet.
Non, on est encore en train de travailler dessus, notamment à cause de la hausse des prix
de tout.
De l'énergie, de tout, oui. Mais là, on avait installé l'année dernière un poêle au pelé. Et le coût du pelé a flambé.
Mauvais timing.
Si je peux me permettre. Donc ouais, mauvais timing. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver des solutions. Et puis voilà quoi. Donc on va mettre en place ça. Mais non, oui, évidemment, l'idée n'était surtout pas de marcher sur les plates-bandes de lieux qui existent déjà. D'ailleurs, pour ce qui est de mettre en valeur le travail des artisanes, l'idée n'est pas du tout de faire une vitrine exhaustive de tout ce qui se passe en termes d'artisanat sur le territoire. D'abord, c'est vraiment une sélection et c'est pas du tout le représentatif de tout ce qui se passe. Pour ça, il y a des lieux super à Châtillon et à Die. C'est pas du tout une démarche de concurrence, au contraire. Quand j'ai des clients qui viennent me dire « est-ce que c'est local ?» et que je leur dis « non, pas forcément », je leur conseille tout de suite d'aller aux bons endroits pour ça. C'est pas du tout l'idée. Donc d'abord, il y a une sélection et ensuite, effectivement, toutes ces créatrices ne sont pas du Diwa. Et c'était pas ma volonté non plus. Le fait est qu'il y a... tellement de talents et de magnifiques talents dans notre territoire que je ne pouvais pas non plus passer outre. J'étais obligée de prendre en considération ces talents-là. Mais ce n'est vraiment pas que. Il y a effectivement en Drôme Provençal, il y a aussi en Ardèche, il y a aussi des gens de Belgique, de Suisse. Encore une fois, c'est une histoire de coup de cœur et de rencontres. C'est pas exhaustif du tout comme démarche. Donc dans cette perspective-là, j'ai pas l'impression d'être en concurrence. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'on propose quelque chose de différent et de complémentaire par rapport au bar associatif qui marche pas mal en soirée. Nous, on sera qu'un lieu de jour. Du fait que ça soit aussi nos lieux d'habitation à la copropriété avec nos 7 familles, il est un peu hors de question de faire des concerts tous les soirs. Et c'est pas du tout l'idée, quoi. Et oui, et du coup, alors pardon pour le fil décousu, mais je reprends, j'ai parlé de Maison Oiseau, mais dans le cadre de cet ancien gîte de Roquebelle et des autres ateliers, on attend aussi le déménagement dans les prochaines semaines de la chocolaterie Hieré, qui est à Glandage en ce moment et qui devrait être nos voisins directs à Roquebelle. De l'autre côté, on a des musiciens, on a un conteur, des danseuses, chorégraphes. Donc il y a déjà une activité de fait avec l'accueil de stage, avec une circulation aussi d'un public qui va pouvoir se retrouver d'un endroit à l'autre et trouver son bonheur, on l'espère, pour plein de propositions différentes dans ce lieu-là.
Ouais. Est-ce que vous êtes preneur et preneuse de propositions par ailleurs ?
Nous, en ce qui nous concerne sur Maison Oiseau, spécifiquement en art plastique, oui. Et après, oui, de toute façon, on est preneur de rencontres et d'échanges, quoi qu'il arrive. Même si ça n'aboutit pas pour X raisons, nos portes sont toujours ouvertes et on est toujours preneur et preneuse de
propositions.
De propositions, ouais.
Pour cela, peut-être qu'on peut indiquer les coordonnées de Maison Oiseau et la manière de vous contacter.
Oui.
Est-ce que tu peux nous donner mail
La totale.
Exact.
alors, du coup, Maison Oiseau, vous pouvez la retrouver sur Internet. On a un site Internet, maison-oiseau.fr. On est présent sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook et sur Instagram. On est ouvert. Là, on est passé en heure d'automne. Donc, on a un peu réduit la voilure par rapport aux horaires qui étaient indiqués sur les affiches et les cartes. On est ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 19h, les après-midi. Donc, vous pouvez aussi venir à notre rencontre directement. Et une adresse mail, tout à fait. Donc, ça sera hello@maison-oiseau.fr.
Et peut-être un contact téléphonique ?
Absolument. Le 06 71 91 45 96.
Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, pour rappel, tu es venue nous parler de Maison Oiseau, donc ce beau projet à Recoubo, boutique à la fois salon finalement d'objets chinés et d'objets choisis qui allient, pour reprendre cette superbe bassline, le beau et l'utile. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça à la radio, à RDIWA. Pour nos auditeurs et nos auditrices, vous pouvez retrouver ce podcast sur le site internet de RDIWA, donc rdwa.fr. Et on finit avec un choix musical sur ta proposition, Julie. C'est Soon Song de Laura Verse. Pourquoi ce choix ? Et peut-être qu'on ne dit pas Laura Verse.
Verse.
Pardon.
Alors Laura Verse, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps, une chanteuse folk américaine. Et cet univers folk, pour son lien, encore une fois, à la nature, à la terre et à l'histoire aussi qu'elle raconte, me touche beaucoup. Et Sun Song en particulier, parce que c'est la chanson du soleil, c'est une ode à l'été et à la lumière cristalline. Et ça me parle beaucoup, surtout maintenant que l'été se termine gentiment.
Même s'il a bien duré. Eh bien, merci beaucoup pour ce choix. On vous
plaisir.
Laisse avec cette musique et bonne soirée, bonne fin d'après-midi et bonne soirée à toutes et à tous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Months since I saw
the sun, the sun to thank. We got the sun.